notre aimable modérateur.
Parce qu'on ne s'en rend
pas compte, il vient de descendre dans une arène remplie de clowns armés de tartes à la crème. Je veux dire. Et bon, il est clair que tu n'en ressortiras pas intact.
Tu as l'air d'oublier que je fais partie des clowns avec les d'habitude.
Oui, tu as peut-être appris à esquiver, mais...
Voir à lancer.
Bon, bah, puisqu'on n'est que deux, hein, on va y aller.
Non, nous sommes trois.
Pierre. Bah, tiens, voilà Pierre déjà qui débarque. On est tous en avance.
Salut, monsieur Pierre. Je me rends compte que j'aurais dû prendre mon casou pour signaler ton arrivée.
Bon olifant.
Ouais, faut toujours le prendre au casou. Hein, c'est de l'échauffement. Hein, c'est...
Normalement, vous avez distribué à l'entrée des petites plaquettes avec des chiffres dessus pour mettre des notes.
En fait, ça serait un truc absolument génial, ça, de faire une table ronde sur les calembours et le public aurait des machins en disant...
Ah ouais, non, un clash de calembours.
C'est vraiment un truc qu'il faudrait qu'on suggère à Stéphanie pour l'année prochaine, mais ça marcherait vachement bien. Je pense que vous seriez partant, à la limite.
Hein. Il faudrait des cartons avec des chiffres négatifs aussi.
Il n'y aurait que des chiffres négatifs.
La vraie question, c'est jusqu'où serions-nous capables d'aller vers le plus bas,
vers l'infini et au-delà.
Découvrir un champ pétrolifère à Épinal. Et bon, on va démarrer doucement cette table ronde autour du rire,
parce qu'on t'a attendu,
de la place du rire dans la fantasy. Non, mais après, comme il y a un enregistrement, ils vont peut-être couper le début. Enfin, je sais pas.
Bah, tant pis pour. On a fait plein de gags absolument super. Et vous qui nous écoutez à la radio, bah, c'est manqué. Tant pis.
Voilà, fallait venir. On va parler de la place de l'humour dans la fantasy. Et je vais commencer avec Pierre Dubois parce que justement, vous êtes un peu spécialiste de ce petit monde et de ce monde du merveilleux. Est-ce qu'on peut rire de tout, même de ça ?
Oh bah oui, je crois qu'eux-mêmes se fendent bien la pipe. Hein, on sait bien que le nain, le petit peuple est hilar. Et même de leur méchanceté, parce qu'il y a de l'humour noir aussi. Quoi. Bien sûr, oui, je pense que de toute façon, toutes ces histoires-là étaient racontées aussi pour amuser, pour faire peur. Mais la peur, le rire, c'est toujours... Ça. Moi, je trouve justement que l'humour que je pratique, c'est le trou d'écrou dans l'horreur, par exemple dans la peur. Si on met en une petite étincelle en plus de sourire, de rire, ça rend encore plus horrible ce que tu racontes. Quoi, tu vois. Donc, je crois qu'effectivement, le rire ou le sourire fait partie du monde, de la féerie, de le monde gothique, l'épouvante. Je vois le gothique, par exemple, aussi. Dans les gothiques qu'on va entrevoir, il y a toujours aussi cette tenue draculienne. Et en même temps, tac, il y a un petit clin d'œil toujours. Il y a ce petit clin d'œil qui fait... et c'est toute, je trouve, la malice... de la féerie, c'est on y croit, on n'y croit pas, on y croit, on n'y croit pas. Il y a toujours ce petit sourire en coin. Et le fait d'y croire terriblement et de sourire ensuite, c'est justement renforcer le propos. Et c'est le tour d'écrou hein, d'Henry James. Hein, on croit un truc et...
Mais oui, le petit peuple en plus est souvent décrit comme un peuple farceur.
Oui,
même si leur farce consiste parfois à noyer les gens...
Voilà, c'est à nos dépens.
Voilà,
hein,
c'est certain, mais c'est vrai que pour eux, ça reste de la farce.
Bah John, justement, avec Noël Buck, il y a tout un travail. Alors là, au moins, on est fixé, on sait qu'on est là pour s'amuser, pour rire. Est-ce que justement le fait d'être dans la BD, puisque là, on parlait des mots avec Pierre, mais avec le dessin, avec l'image, est-ce que justement ça ajoute quelque chose par ici.
Ouais, il faut aller à ta place.
Il y a un côté des incontrôlables et je suis heureux de voir que tu as été bienvenu, ami.
Voilà, donc en fait, ouais, moi, l'image est arrivée après que j'ai commencé à écrire, donc je ne me suis pas basé dessus. Il s'avère que ma dessinatrice a trouvé le trait qui allait avec ce que je faisais, mais moi, je n'ai pas cherché à faire des trucs comiques. Je me suis juste dit, je vais écrire des gens qui jouent. Et ayant masterisé moi-même du jeu de rôle pendant une dizaine d'années avant d'écrire, je ne me suis pas cassé la tête à me dire, tiens, je vais faire des trucs... Parce que moi, déjà, moi, ça me faisait rire. En table, on avait rigolé. Et puis, effectivement, quand il y a un truc dramatique, il n'y a rien de mieux que de balancer une blague. Et là, ce qui arrive en jeu de rôle, c'est que souvent, on a une maladresse, quelqu'un qui a une idée grotesque. Souvent, une idée grotesque qui amène à une maladresse. Enfin bon, etc. Et donc, voilà, moi, je n'ai pas réfléchi en termes d'image au début. Mais ça s'est fait accidentellement, comme beaucoup de choses dans ma vie.
Jean-Claude Duniac, on vous connaît plutôt comme auteur de science-fiction.
J'aime pas quand tu m'appelles plutôt.
On vous connaît comme auteur de science-fiction. Et votre rapport à la fantaisie et à l'humour dans la fantaisie, bah, j'allais dire, l'humour, il est constitutif de Jean-Claude Duniac, mais donc il s'applique après lorsque on vous appelle pour venir faire un petit tour en fantaisie.
Ben, ça dépend. Encore une fois, j'ai écrit un livre de fantasy remarquablement noir que je suis en train de terminer. Et quand je dis qu'il est noir, c'est qu'il n'y a vraiment pas une once d'humour dedans. Ça, c'est clair, c'est la guerre des cercles. Et croyez-moi, c'est pas drôle. Bon. À côté de ça, l'humour chez moi, c'est aussi bien en fantasy qu'en SF, en autre chose. C'est le fait que coexistent plusieurs points de vue et de points de vue de gens qui sont toujours extrêmement éloignés les uns les autres. C'est comme ça que je fonctionne. Hein. C'est dans ma tête, c'est dans ma vie aussi. Je fais plusieurs choses en même temps et je suis plusieurs personnes en même temps. Je suis un ingénieur, je fais des chansons, j'écris des trucs, je suis marié, j'ai deux enfants, j'arrête pas de dire des conneries. Tout ceci coexiste et pas nécessairement dans le même endroit. Donc à un moment donné, on a toujours un personnage qui a une espèce de vision, de quête, de mission qui avance. Et puis à côté de ça, il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout, enfin, qui est à côté, mais qui est en décalage. Vous avez un troll et son stagiaire. Vous avez le troll qui dit « Nous allons devoir franchir les montagnes du destin et puis traverser la forêt maléfique pour attaquer le marais de la mort sinueuse. » Et le stagiaire répond « Est-ce que ça comptera pour mon stage ?» Bon. Ce qui est encore une fois une chose tout à fait normale. Chacun apporte son point de vue. Et le gros problème dans ces cas-là, c'est qu'on sort du point de vue de l'autre pour passer dans le point de vue humoristique. Et à ce moment-là, la difficulté, c'est d'y revenir. Quand on a sorti une vanne énorme de la mort qui tue, puis tellement mauvaise qu'elle est abyssale, revenir en disant « Bon, attendez, les mecs, il y a quand même une histoire tragique qui se passe », c'est très dur. Donc, il faut en permanence osciller entre « Je monte vers le tragique et tout le monde est là cramponné au-dessus de la falaise », puis il y a quelqu'un qui sort une énorme connerie. Alors là, tout le monde se marre, on lâche, on tombe, on se fait très mal, et puis on recommence, on escalade la falaise. C'est très, très bien. C'est du sadisme, hein, ce qui me concerne.
Karim Béoka, vous nous venez à la fantaisie avec ce roman. C'est celui-là ? Oui, c'est celui-là, quand même, que je ne dise pas de bêtises. Oui, des guillotines. Quelle était l'idée de départ que vous êtes fixée quand vous avez commencé à écrire ce roman ?
L'idée de départ, je ne sais pas, d'écrire un roman, de le finir, d'aller jusqu'au bout. Non, je n'avais pas d'idée de départ. Je suis parti d'une petite scène et puis ça s'enchaînait. Je ne suis pas du genre à écrire des scénarios. Hein, je ne suis pas très doué pour ça. Enfin, si, je les écris très bien, mais je ne les suis jamais. Donc non, bah, ça part d'une rencontre un peu décalée entre une fée qui n'est pas petite d'ailleurs, qui est un peu vaguement une fée marraine, mais bon, qui débarque chez les hommes après avoir vu quelques années de redressement parce qu'elle avait fait des conneries pendant la Révolution française. Et donc, bah voilà, il y a tout un truc qui s'enchaîne sur le décalage, sur le fait qu'elle est un peu larguée et qu'elle n'a un peu rien à foutre des êtres humains, mais qu'elle a une mission. Et quand on a une mission, bah, il faut aller jusqu'au bout, quoi.
Oui, parce que la particularité de ces fées, c'est que finalement, elles nous considèrent, nous humains, un peu comme des moins que rien.
Ouais, bah voilà, ouais, comme. C'est normal. Hein,
C'est important d'avoir un personnage lucide.
C'est un être supérieur, hein, écoutez. Hein, je sais pas, elle arrive là, elle a du boulot.
Il y a des passages qui sont. Alors, paradoxalement, presque les plus sérieux du roman sont ceux où les personnages de ce monde nous regardent vivre et évoluer, en particulier ceux où ils racontent la Révolution française, voilà. Où ils ont effectivement, on a vraiment l'impression qu'ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce monde, quoi.
Bah oui, ils ont un monde et une société qui est complètement, qui est un peu simplifié parce qu'ils aiment pas trop le. C'est un truc des êtres humains de tout complexifier, de faire des faire des mathématiques, d'être ingénieur, d'envoyer des avions dans l'espace.
Mais ça, c'est les pervers.
Oui, c'est les pervers polymorphes et tout ça. Mais en fait, elles, voilà, elles ont un truc bien, bien droit, puis elles arrivent là, puis c'est le bordel. Les gens font de l'art, les gens croient en des choses bizarres, alors que dans leur pays, bah, tout est réglé, puis on ne pose pas de questions, bordel, c'est normal. Mais bon.
On va y revenir évidemment au cours de cette table ronde. Pierre Dubois, on a, je vois devant nous un nouveau roman. Alors, c'est plutôt des nouvelles. Vous vous attaquez au conte de fées.
Oui, je m'y attaque pas vraiment.
L'expression s'y attaquer, quand même, c'est attaqué, quelque chose de féroce.
Salope de fées.
Vous leur faites subir des choses bizarres quand même.
Oui, mais ça c'est une gourmandise. Là, justement, je viens de sortir un bouquin là, qui vient de son nom, qui s'appelle God Save the Crime, et qui est tout à fait dans le même esprit, et qui est un bouquin de cul, quelque part, mais qui est odieux, qui est gore, qui est affreux, etc. Brigitte Lahaie a refusé de le présenter, même. Et en même temps, je me suis vraiment amusé, quoi, parce que et ça aussi, je crois que le conte de fées s'y prête aussi. Hein, les contes sont extrêmement cruels. Hein. Quand les sœurs de Cendrillon se tranchent réellement l'orteil pour faire rentrer la pantoufle de verre, c'est quand même très cruel. Il y a des histoires atroces, l'histoire de la mère qui dit à son gamin, tiens, regarde dans le coffre, il y a une pomme, ramasse-la, et tac, elle fait tomber elle lui tranche la tête, Hansel et Gretel, c'est aussi très... Donc le fait de prendre tous ces contes et se dire, tiens, je vais les transposer aujourd'hui, ou dans le 19e, tu te fais plaisir, ce sont des espèces de petits... Moi, j'adore l'humour anglais, j'aime beaucoup Saki, par exemple. Tu t'amuses, tu te fais des petits plaisirs, des petits régalis, quoi, de dire, tiens, voilà, je prends cette trame, qu'est-ce que je vais raconter là-dedans. Là, par exemple, mon histoire d'amour, c'est comment un bon médecin va devenir Jack l'Éventreur parce qu'il tombe amoureux d'une fille de 14 ans, quoi. Et ils vont aller jusqu'au bout. Mais quelle joie aussi dans les choses assez atroces, en marge, d'avoir des petits textes, des petites choses comme ça. S'il y a un effet de sang, le sang qui éclabousse le mur, bon, l'effet gore, c'est le sang qui éclabousse le mur. Non, en fait, moi, il va éclabousser des tableaux. Et là, il y a une petite biographie pratiquement de tous les peintres 1770, des pré-raphaélites, ou des choses comme ça. Ce qui fait qu'il y a tellement de descriptions de peinture qu'on se rend compte que la tache de sang est vraiment immense. Mais c'est des petits clins d'œil. J'adore faire des petits clins d'œil. C'est aussi un petit peu... parce qu'on ne sait pas si le lecteur va le percevoir. Hein, tu fais ton petit clin d'œil à toi. Tu sais pas. Tu te fais plaisir aussi. Mais d'un autre côté, si on se fait chier en écrivant, c'est ça, c'est le. Donc, tu lances ton petit écho comme ça, et puis quand tu vois un lecteur qui s'est dit, ah, j'ai bien rigolé, quand la petite fille elle évente, elle a tout compris, ça fait plaisir, quoi. On parlait de sadisme, mais c'est vrai qu'il y a une forme de sadisme, mais même dans la forme d'écrire, moi j'adore distordre, de tricoter pour écrire. J'aime bien que le texte soit aussi un petit peu torturé, un petit peu alambiqué, avec toujours ce petit je fais une jolie phrase et puis à la fin je la casse par un petit hic, et j'aime bien ça, quoi. C'est amusant.
John, il y a le travail aussi pour le décalage, puisqu'on a utilisé ce mot depuis le début. C'est aussi de jouer sur les archétypes du genre.
Ouais. Ben en fait, moi, par rapport à ce que disait Pierre, je pense que quand on écrit de l'humour, il faut d'abord être honnête avec son propre humour, je pense. Parce que je réfléchissais à ça avant la table ronde. Je me dis, mais de quoi va-t-on bien pouvoir parler ? En fait, je pense que quand tu essayes de faire, les gens qui essayent de faire de l'humour pour d'autres personnes qu'eux-mêmes vont plus ou moins généralement dans le mur. Et en fait, voilà, bah, moi j'aime les trucs qui viennent naturellement. L'humour que je pratique, c'est l'humour de table de jeu de rôle. C'est-à-dire que on réfléchit pas tellement à ce qui va se passer. On est là et il s'avère que ce soit les bonnes idées ou les bons mots de certains ou les situations qui arrivent d'elles-mêmes, c'est pas vraiment prémédité. On fait pas du jeu de rôle. On n'écrit pas un scénar de jeu de rôle pour se marrer, par exemple. En fait, on se marre quand même. Donc voilà. Et moi, j'écris de la même façon. Avant tout, j'écris un truc qui me fait marrer moi, avec effectivement une part de décalage qui s'adresse à un public qui devrait normalement connaître les mêmes choses que moi. Bon, il s'avère que c'est pas totalement le cas, notamment pour ça que tout à l'heure j'ai eu peur quand on est rentré dans la pièce et qu'il n'y avait que des enfants de 8 ans.
Alors, faut qu'on explique pour ceux qui n'étaient pas là, il y a une classe qui est venue visiter le Magic Mirror juste avant. C'était une classe d'école primaire, donc effectivement on s'est dit qu'ils étaient peut-être un petit peu jeunes.
Voilà, parce que bon, moi on dit que je fais du jeunesse, je me suis déjà retrouvé à une table ronde jeunesse ici même. Non, pas du tout. Bon, il y a des gamins qui disent ce que je fais, je ne sais pas ce qu'ils comprennent dedans. Enfin, des petits. Hein. Après, avec l'âge, il y a plus ou moins de... Mais voilà, je pense qu'il faut être honnête avec son propre humour, avant tout. On voit que dans le cinéma français, par exemple, des gens se cassent la gueule parce qu'ils essayent de faire de la comédie en se disant « on va faire de la comédie pour des gogos ». Alors en fait, effectivement, il n'y a que les gogos que ça intéresse et eux-mêmes ne sont pas intéressés. Et quand on travaille avec la télévision, on se retrouve avec... parce que c'est ce que je fais en ce moment pour ma série... On se retrouve avec des gens qui ont tellement l'habitude d'essayer de produire des programmes pour faire rire d'autres gens qu'en fait, ils ne savent pas faire de l'humour. Parce qu'ils essayent de se mettre dans la tête de quelqu'un qui n'est pas eux pour faire rire quelqu'un d'autre. Et à mon avis, ça, c'est pourri comme idée.
Jean-Claude, par rapport à ce que dit John, justement, là aussi, il y a la question de se dire, mais voilà, moi, ce que je fais m'amuse, me plaît. Est-ce que ça va trouver un public ? Est-ce que le public va réagir de la même façon ?
C'est le gros drame de ma vie. C'est parce qu'à partir du moment où ça me fait rire, moi, comme j'ai un humour de merde, je me dis, bon, déjà, j'ai une espèce d'inquiétude vis-à-vis de la personne qui vient me voir en me disant, j'ai beaucoup ri. Je me dis, attendez, ne vous approchez pas. Enfin, c'est véritablement ce sentiment-là que j'ai, quoi. D'autre part, il m'arrive vraiment, mais vraiment, de me relever la nuit à 3h du matin parce que j'ai eu un gag, mais un gag de merde, et d'aller le noter parce que c'est pas possible de passer à côté de ça, et de temps en temps de partir sur un truc et de voir à la table du petit déjeuner, j'ai deux enfants et une épouse qui me regardent, puis qui baissent les yeux, qui disent « Papa, tu nous fais peur ». Alors bon, c'est vrai que je marche comme ça, mais c'est vrai que de toute façon, il faut que ça me fasse marrer, moi. Par contre, l'humour est totalement indissociable d'un contexte. Moi, j'avoue que je me moque de choses qui sont peut-être les contextes de mon âge, mais je me moque de la guerre en Irak, je me moque de la finance internationale, je me moque de tout un tas de trucs que tout le monde connaît ou que tout le monde est censé connaître à nos âges. Quand on se moque d'un truc de fantasy, le plus simple pour se moquer, c'est la table ronde ou le Seigneur des Anneaux. Je veux dire, soyons clairs, parce que ça, tout le monde en a un minimum entendu parler. Donc, au moins, il voit les gags arriver, quoi, quand même. Parce que si on essaie de se moquer d'un truc qui est complètement dans un coin que personne n'a lu, bon, c'est peut-être très drôle, mais personne ne verra. Et c'est vrai qu'on a ce travail de dire « je lâche mon humour sans savoir qui ça va faire rire ». On lâche des oiseaux et on ne sait pas sur quelle tête ça se pose. Mais c'est formidable.
Est-ce que tu es surpris parfois dans les retours justement de ce qui a pu faire rire, où tu te disais « tiens, ce gag-là, il va marcher » et puis finalement, il n'y a pas de retour dessus. Et puis un autre où tu te dis… pour reprendre ton expression, c'est vraiment un gag de merde, et pourtant c'est celui-là qui fonctionne.
Ben oui, mais de toute façon, c'est le but aussi. Tu sais même pas d'ailleurs quand tu lâches un texte ce qui va plaire. Hein. Moi, il m'est arrivé d'écrire un texte qui était une private joke vraiment par rapport à un petit groupe de 6 personnes qui assistaient à une réunion. Hein, et le gag était dirigé vers ces 6 personnes-là. Et c'est une de mes nouvelles les plus connues. Et qui a vraiment fait, je ne sais plus, 11 langues ou 12 langues. Je me dis, cette histoire-là, elle a visiblement touché quelque chose qui dépassait les 6 crétins que nous étions en train d'assister à une réunion particulièrement merdique. Bon. Donc, tu ne sais pas. Bon. En même temps, il y a des fois, je me réveille en disant, je leur ai préparé un truc, ça va être nickel, ils vont tomber comme ça. Et les gens passent dessus en disant, ah ouais, bon, c'est quoi la suite ? Et là, on est effectivement déçus. Bon. Moi, j'ai un énorme avantage. Je bosse avec un copain qui s'appelle Ayardal, qui a un humour relativement différent du mien, mais qui a quand même un humour extrêmement solide. Et quand je lui envoie un truc, je viens de finir mon recueil de trolls, hein, pour ceux que ça intéresse. La première nouvelle, enfin c'est un roman en fait constitué de 4 nouvelles enchaînées. La première, vous l'avez lue dans l'anthologie il y a 2 ans des Imaginales. Magicien et sorcier. Les 3 autres sont totalement inédits. Et vous allez voir que le troll a un stagiaire, découvre l'amour, résout le problème de la finance internationale et au passage subit des tas de problèmes plus ou moins compliqués. Mais ça, je l'envoie à Heyerdahl. Quand il me répond en me disant « j'ai rien à dire parce que je me suis marré tout le long », je me dis « j'ai atteint mon but ». C'est-à-dire que j'ai fait plaisir à une personne. Alors après, s'il y en a une deuxième, je pense que mon éditeur sera content. Si en plus, il y en a d'autres, il sera encore plus content. Mais moi, mon objectif est atteint. D'accord ? J'ai même réussi à faire sourire mon épouse, ce qui est quand même un truc... bon.
Ton épouse est un truc ?
Content que la remarque soit enregistrée, je ne vais pas pouvoir rentrer chez moi maintenant à cause de vos conneries. C'est très agréable. Mais je vous remercie. Bon, quelqu'un a de l'asile politique ?
Karim Berouka, là aussi, on est dans un humour. Moi, j'ai beaucoup
drôle. Ri. Hein.
Oui, moi, je me suis marré du début jusqu'à la fin, mais je peux comprendre que ce soit un humour qui puisse laisser certains froids. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez ? Comme toute forme d'humour.
Ouais, voilà, je sais pas, j'en sais rien. Je pense qu'il y a des trucs qui me font rire. Monty Python, ça me fait rire. Patrick Sébastien, ça me fait pas rire. Je sais pas, il y a plein de genres d'humour. Il y a plein de gens qui sont sensibles. Ouais, là, c'est un peu provo, c'est un peu cynique. Est-ce que ça plaît aux gens qui sont là, à d'autres ? J'en sais rien. De toute façon, j'ai pas écrit pour plaire. Hein. J'ai écrit parce que j'ai envie de l'écrire.
Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a à la fois les personnages. Ouais. Il y a l'écriture, il y a les situations.
Tout ça.
Ah bah oui, je le revendique, les dialogues. Il y a vraiment. Je vais dire un gros mot. Il y a un travail. Sur plusieurs.
Tu t'es pas trompé de table ronde là parce que.
Si, excusez-moi. Non, mais c'est vrai qu'il y a, vraiment. Il y a différents degrés de lecture.
Possible, ouais, je sais pas. Moi, le but, c'était de faire un truc qui m'éclatait avec une histoire à la base qui pourrait être classique, mais en y apportant plein de choses qui sont un peu moins. Et puis
parce qu'il faut le dire, on est dans une série noire avec l'irruption.
Ouais, ouais. On est à la fois dans du polar, de la fantasy urbaine, mais il y a un mort derrière moi. J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu différent. Alors après, je sais pas si j'ai réussi, mais ouais, après on verra. Hein. L'humour, c'est toujours. Dans le recueil que j'avais fait avant, il y avait une nouvelle qui reprenait l'histoire de Jacques qui montait à haricots magiques, là. Mais que j'avais dit tiens, on va réécrire la nouvelle comme si Bruno Bettelheim avait écrit cette nouvelle, mais qui n'avait pas été un psychanalyste, mais juste un conteur. Donc, Jacques et son haricot magique se faisaient prendre la tête par un psy. Et donc, il y avait plein de références et tout ça. Et moi, ça me fait mourir de rire. Il y a plein de gens qui trouvent ça super nul. Donc, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne avec des gens. Et puis là, c'est pareil, on verra. Hein.
Alors, justement, puisqu'on commence à parler des réactions des gens qui viennent vous voir, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents du traitement que vous infligez parfois, ou aux contes, ou aux personnages ?
Quand on fait mourir des gens pour que ça fasse rire, il y en a qui ne sont pas contents. Moi, depuis des années, j'en ai qui viennent en me disant « Mais pourquoi le voleur, il est mort ?» Bah, c'est marrant. Non, on l'aimait bien. Je dis, bah oui, mais voilà, des fois, on meurt. Bah, moi, ça me faisait rire. Mais bon, enfin voilà, ils sont restés quand même. Hein. Mais effectivement, ouais, mais je pense que c'est surtout quand on fait mourir les gens. Parce que dans une œuvre dramatique, tu fais mourir les gens... Ils s'y attendent.
Oui, c'est dans le contexte.
Voilà. Et quand tu veux faire mourir des gens pour faire rire, ah bah là, non. Bah, moi, je m'en fous. Hein. Je bosse pas à Hollywood. Je fais mourir qui je veux.
T'en as parlé à George R.R. Martin parce que je pense que c'est vraiment un truc vous auriez...
Oui, quand je disais œuvre dramatique, je me référais à ça quand même. Mais d'ailleurs, lui aussi, les gens se plaignent.
Les gens râlent aussi.
Temps, ils sont jamais contents, en fait.
Le jour où George R.R. Martin fait la version humoristique de Game of Thrones, personne ne sera content. Alors là, on le sent, il va éliminer tout le monde.
Pierre, même question. Quand vous vous attaquez à des contes aussi célèbres que ceux qui sont dans ce livre, est-ce qu'il y a des gens qui viennent voir en vous disant « Non, mais quand même, vous touchez à des vaches sacrées
Non, ça les amuse. Enfin, ils savent d'ailleurs, en achetant le bouquin, ce qu'ils vont trouver dedans. Ils savent que, disons, en appelant mon bouquin « Les contes de crime », ou les contes inassassines ou Good Sap the Crime, ils savent que ça va être un humour noir. Mais même dans ce que j'écris en bande dessinée ou quoi que ce soit, ça finit toujours mal mes histoires, et ça finit mal notre histoire. C'est vraiment mort à la fin. Donc autant le prendre relativement bien.
On n'a dit pas de spoiler.
Oui, mais... mais quand même. Donc,
le... C'est foutu maintenant.
Oui, oui. Donc, on essaie d'en rire. Oui, je pense que le... Je ne savais pas, en plus, que je faisais de l'humour. Quand j'étais enfant, un mauvais élève, enfin bon, mon professeur de... J'avais fait une rédaction à l'époque. Et il avait noté même une pointe d'humour. Qu'est-ce que c'est que de l'humour? Qu'est-ce que c'est que l'humour? Et il avait essayé de me l'expliquer, je n'avais pas compris, mais il m'a dit, c'est pas grave. T'en as fait, c'est bien. Et je crois que c'est ça, c'est quand on commence une histoire, enfin surtout ce genre de... je ne sais pas que je vais faire de l'humour. Au départ, je ne dis pas, tiens, je vais faire rire. C'est je prends la situation la plus tragique qui soit, avec des personnages méchants, et tout petit à petit, il y a les travers qui se forment, et automatiquement, tu ris de ce que tu leur fais faire. Plus tu es odieux, plus ça te fait rire.
Est-ce que tu fais le coup du jet de dé, toi aussi, des fois, non?
Ah bah oui, c'est ouais. Quand même ça.
Et quand tu arrives à une truc tragique, moi, des fois, je lance un dé.
Et puis de...
Et je me dis, ah bah non. Non, en fait, c'est pas triste, c'est drôle. Hein.
Mais en littérature, rien n'est sacré. Je veux dire, on peut se moquer de gens vivants, et là, on va avoir des gens qui vont revenir en disant, tu n'as pas le droit de te moquer de telle et telle personne. Mais en littérature, vraiment, rien n'est sacré. Et en plus, la littérature, pour la plupart des gens, c'est aussi des moments des livres, des poncifs qu'on leur a fait avaler alors qu'ils n'en avaient pas envie. Alors qu'il y a quelqu'un qui barbouille ça avec des graffitis, mais ils sont contents, d'une certaine façon. Et plus c'est connu, plus c'est aimé, plus c'est, je dirais, ça fait partie de l'inconscient du truc, plus le fait qu'il y ait quelqu'un qui aille barbouiller ça, ça leur fait plaisir. Croyez-moi, il n'y a rien de sacré. Par contre, quand toi, tu as créé effectivement un personnage que tout le monde aime bien, tu l'as traîné pendant 3 tomes, et au début du 4e, eh ben, bêtement, il attrape une écharpe dans le pied et il meurt. Là, les gens te disent quand même, t'es gentil, mais bon, t'aurais pu veiller un peu mieux sur lui quand même, parce qu'il comptait sur toi, puis nous aussi. Bon. Alors là, tu te fais engueuler. Mais dans l'humour, ça arrive très rarement. Hein, c'est pas...
Karim, il y a dans l'anthologie du Festival Zone Franche à Bagneux, il y a une nouvelle où on retrouve les personnages du roman, mais cette fois, ils ne sont pas aux prises avec des fées, ils sont aux prises avec des personnages de la table ronde. Donc, on va revenir à ce que disait Jean-Claude tout à l'heure sur les références communes. Et. Il y a une rencontre assez particulière entre ces 4 enquêteurs et Lancelot.
Oui.
Ça se passe dans une forêt qui ressemble à la forêt bretonne.
Où il pleut.
Et où il y a plein d'écureuils.
Oui, il y a des écureuils. Ouais, il y a un temple dédié aux écureuils.
Et Lancelot ressemble à quoi?
Lancelot est vieux parce que Lancelot est vieux. Lancelot est né il y a à peu près de... Je ne sais pas combien... 16 siècles et puis il se fait chier dans la forêt depuis des siècles. Il a des écureuils pour lui tenir compagnie. C'est un peu louche, on ne lui demande pas pourquoi. Et il se met sur la tronche avec Gauvin parce que ça fait à peu près depuis tout ce temps-là qu'il...
Ça a joué un peu sur leur caractère le temps qui passe, on sent.
Ben ouais, qu'est-ce que tu veux, ils se sont un peu emmerdés. Tout s'écroulé, toute leur utopie de belle chevalerie, tout ça, de courtoisie s'est cassé la gueule à la fin de... À la fin de l'histoire, quoi. Mais eux, ils ont continué dans notre histoire. Ils se retrouvent comme des couillons au milieu de la forêt, à taper dessus régulièrement et à pas pouvoir mourir parce qu'il y a une sorte de...
Mais en 16 siècles, ils n'ont pas eu envie de sortir de la forêt?
Bah non, ils sont bien dans la forêt. C'est des mecs des bois, quoi. Enfin, c'est route, quoi.
On se fait un ciné, puis on rentre. Quoi.
C'est-à-dire qu'ils sortiraient de la forêt, ça se remarquerait un tout petit peu, parce que ne serait-ce que déjà au niveau de leur vocabulaire,
ouais,
ils passent pas inaperçus.
Ils ont du mal à se fondre dans le décor.
Ils parlent un peu en vieux français, mais alors un vieux français, je vous conseille, si vous avez l'occasion de lire la nouvelle, c'est absolument extraordinaire. Et ils sont effectivement complètement déjantés, décalés.
Ah oui, ils sont un peu en retard sur nous. Ou en avance, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont plus dans la même époque, quoi.
Et du coup, la rencontre est quand même assez fascinante avec les personnages actuels qui sont fascinés, on peut dire ça.
Ah oui, non, mais bon, ça c'est un petit truc de... C'est une petite astuce littéraire pour pas qu'il y ait 6 personnes qui fassent plein de trucs dans une nouvelle, parce que là...
Il y en a au moins 2 qui sont en sidération.
Oui, il y en a 2 qui sont là. Mais bon, c'est magique aussi, hein. De toute façon, c'est la science-fiction. Hein. Enfin, plus, pardon, de la fantasy.
Alors là encore, c'est une particularité parce que dans l'anthologie, il y a 9 nouvelles, il y en a 7 qui sont sérieuses, ouais. Et il y en a 2 qui sont un peu plus humoristiques, qui sont celles de Jeanne de Batz et la vôtre,
ouais.
Qui termine d'ailleurs le recueil. justement, il y a ce décalage qui se fait, ne serait-ce que par rapport à vos collègues. Ça, on vous en parle aussi de ça ?
Pour l'instant, non. Tout le monde m'évite depuis, donc. Mais je sais, oui, bah de toute façon, la table ronde, c'est pas, ça peut être, il y a eu des trucs assez comiques faits là-dessus, mais là, c'était Lancelot, donc je pense que les gens ont un peu vu le côté, côté l'amour courtois, le plus grand des chevaliers, blablabla, tout ça. Donc, il y en a deux qui se sont dit, on va chercher autre chose, et qui ont fait n'importe quoi. Donc, on les a mis à la fin de recueil pour que ça se voit trop. Ouais. Et voilà.
Mais moi, quand j'ai commencé à écrire de la science-fiction, je te parle, il y a une époque où les dinosaures régnaient sur le monde et c'était nominé l'année dernière.
Il y avait 7 heures cet après-midi, la table ronde sur la préhistoire. Oui. Excusez-moi, je fais ma pub.
Moi, je serais juste là pour faire le décor. Mais donc, quand j'ai commencé à écrire de la science-fiction il y a très longtemps, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant « Mais ok, tu écris de la science-fiction, mais tu ne vas jamais écrire quelque chose de sérieux. » Et maintenant que j'écris... de la science-fiction, mais que j'ai écrit des textes d'humour, il y a des gens qui viennent me voir en disant « Mais t'écris encore de la science-fiction, tu vas jamais nous faire un truc un peu humoristique, là, quand même ?» Et donc, quelque part, la perspective a changé. Alors, est-ce que j'ai réussi ma vie ou est-ce que je l'ai lamentablement raté ? Je n'en sais rien. Mais enfin, une chose est sûre, il y a eu véritablement un glissement du public.
Il y a un mot que John a prononcé au tout début, qui est le mot « grotesque ».
J'ai dit ça, moi ?
Oui.
Mais est-ce que quelqu'un peut rembobiner ?
Give some replay. Mais justement, je trouve ça intéressant parce que moi, ça m'est arrivé de l'employer aussi, j'imagine à peu près dans le même sens qui était le vôtre. Et c'est un mot qui souvent est mal perçu, qui a un côté très péjoratif, alors que finalement, par rapport au travail que vous faites les uns les autres, c'est un mot qui justement est un style, est un genre à lui tout seul, finalement, le grotesque.
Ouais, bah nous, moi, dans mon core business, qui est le jeu de rôle, grotesque, on l'utilise pas mal quand même, parce que souvent, on l'utilise avec la phrase suivante, mais comment on en est arrivé à cette situation grotesque ? Voilà, parce que tu pars faire un truc, les jets de dés, les décisions, je vais dire débiles, parce que ça arrive de certains, l'univers que tu as mis en place, etc., aboutissent à des trucs où, à un moment, ça se retrouve souvent dans ce que j'écris, évidemment, puisque moi, je m'inspire de ça. Mais comme exemple, on part enquêter dans un de mes scénars que je fais jouer à des gens. On part enquêter sur une disparition de personnes qui sont transformées en zombies. Et 2 heures après, on se retrouve à faire la perquisition d'une usine de saucisses. Alors, qui n'avait rien à voir avec le scénario. Et là, évidemment, je me dis, mais comment on en est arrivé à cette situation grotesque ? Voilà, donc ça arrive tout le temps dans ce que je fais, et c'est souvent malgré moi. Voilà, mais je pense que, ouais, dans le... Ça, moi, c'est mon humour. En fait, voilà, c'est toujours... parce que moi, j'aime bien écrire des trucs sérieux aussi. Et quand j'essaye, j'arrive quand même à une situation grotesque. Voilà, donc je ne fais pas souvent exprès.
Pierre, sur le grotesque ?
Ben, sur le grotesque, moi, j'en ai pas fait énormément, sauf avec Sphar, où on s'est amusé à faire les aventures de Petrus Barbigère, où là, le personnage, au départ, était grotesque, c'était Petrus Barbigère. Mais je me suis bien amusé, parce que dans le grotesque, ça devient surréaliste, ça devient... Tu mets tout dans le grotesque, tu peux même, on parlait d'écriture, tu peux grossir tes mots, faire tout ce que tu veux, tu peux, allez, on y va carrément.
Tu inventes des mots.
Tu inventes des mots, justement, on s'amuse, tout est ouvert, donc ça, c'est vraiment c'est la comptine, c'est aussi les enfants pantés et morts, etc. Et ils en rajoutent dans le scénar et tout, et puis tu sais pas où tu vas, justement, dans Petrus Barbigère, j'avais vraiment vaguement une ligne. Un itinéraire, et puis avec Sphar, on a commencé à délirer, à se marrer. Le canonnier est aveugle et puis on rajoute, c'est vrai que tu t'amuses, et puis c'est aussi travailler avec quelqu'un aussi, c'est très très agréable, parce qu'on se renvoie la balle, on a des fous rires, tu vas pas faire ça quand même, si y a les chiches, et puis on le fait. C'est ça qui est, donc le grotesque, c'est ça, et puis ça fait du bien, quoi. De toute façon, le grotesque, si on veut aussi, c'est le carnaval, hein. À la fin de l'hiver, ça va pas bien, on n'est pas bien, les craques, on va dans le grotesque, et puis c'est on doit en faire plus, c'est toute façon, le Cronesque, c'est aussi nos hommes politiques, nos trous du cul d'abat-jour qui nous regardent et qui se prennent tellement au sérieux qu'ils en sont grotesques. Et on devrait absolument leur attacher des trucs au nez, aux oreilles et tout, puis les prendre en tant que tels, quoi.
Ça me fait marrer parce que justement, j'allais dire, tu parlais de canonnier aveugle. Alors moi, je suis canonnier. De trucs grotesques et j'ai fait mon service militaire. On me dit voilà, vous êtes canonnier. Bon, c'était il y a longtemps hein, parce que je suis plus vieux que j'ai l'air. Je suis canonnier. Alors ça veut dire qu'on va utiliser des canons? Non. J'ai jamais vu un canon de ma vie. J'ai été canonnier pendant 10 mois.
J'étais canonnier voltigeur. T'étais au service militaire, t'en as quand même bu quelques-uns.
Non, j'ai pas vu. Non, j'ai rien vu du tout.
J'ai bu. T'as bu quelques canons. Oui.
Non, mais non.
Rassure-moi. C'est...
Non. Mais bah, voilà, moi, je trouve que les situations grotesques, quand même, on va pas forcément les chercher loin. Hein. Elles viennent te sauter au visage, quoi. Et ça, c'est excellent. Et comme un pote à moi qui était dans la marine, il a jamais mis le pied sur un bateau. Moi, je trouve ça grotesque.
Jean-Claude, justement, la relation, on l'a compris à travers le personnage du troll, il y a une relation à travers la fantasy au monde actuel et à ses absurdités, finalement.
Oui, ben, clairement, je ne peux pas dire que j'avais un projet quand j'ai fait ce truc-là, parce que quand j'ai écrit la première nouvelle, c'était, comme d'habitude, j'écris une nouvelle qui est censée s'arrêter. C'est censé s'arrêter et puis on passe à autre chose. Sauf que certains univers sont plus prégnants que d'autres, donc et certains personnages, je suis revenu au personnage. Mais l'idée, c'était véritablement de me dire, le monde de la fantasy s'est séparé du monde des hommes à peu près à l'époque des chevaliers et de la table ronde, là pour fixer un truc. Le monde, le nôtre, a continué comme on le sait, etc. etc. Mais le monde de la fantasy aussi. C'est-à-dire que le monde de la fantasy s'est industrialisé, a fait sa révolution au numérique, etc. Il y a du piratage, enfin, truc. Il y a des tableaux Excel, il y a des bilans comptables, etc. Sauf qu'il y a des trolls, des magiciens, des loups, etc. Alors évidemment, vous avez les magiciens noirs. Donc là, dans un monde comme le nôtre, ils finissent aux ressources humaines. Enfin, je veux dire, c'est des choses évidentes, vous voyez ce que je veux dire. Et à un moment donné, vous vous retrouvez avec une situation dans laquelle, à l'intérieur de ce monde-là, c'est un miroir de ce qu'on vit. C'est comme Dilbert, mais avec les, je sais pas, les licornes, les princes charmants, etc. Qu'est-ce qu'on fait d'une licorne dans un univers comme le nôtre où il n'y a plus besoin de licorne?
On fait des lasagnes.
Non, pas du tout. Pas du tout. On réalise qu'à un moment donné, la licorne, ça peut servir à transporter les CD vierges. D'accord. Et alors là, il y a une corne, si vous voulez, donc tu peux enfiler les CD vierges sur la corne. Et donc tu calcules. La raison pour laquelle il y a un trou à l'intérieur du CD, c'est pas parce que vous remarquerez que vos lecteurs de CD n'ont pas besoin du trou du CD. Par contre, la corne de la licorne, oui. Donc il faut savoir quelque part qu'il y a une vraie raison. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc tout se met en place, et là, il y a des espèces d'évidences qui font que bah, si ça fonctionne, ça fonctionne de cette façon-là. Voilà. Et moi, ça me paraît totalement évident, et les gens me regardent en disant... oui, Jean-Claude, tu vas t'allonger et nous parler de ta mère. Mais vraiment, enfin, ça me paraît totalement logique. Moi, j'ai mon personnage de troll. La première nouvelle du recueil qui va sortir, c'est vraiment le mec, il rentre, il se fait convoquer par le grand patron, qui lui dit, votre dernière mission est un désastre. Et il dit, attendez, je ne comprends pas, vous m'avez envoyé combattre le magicien noir, je suis allé lui péter la gueule, j'ai ramené le sceptre des enfers qu'il avait dérobé et j'ai détruit son armée. Et là, le patron lui dit, oui, mais vous n'avez pas ramené les justificatifs comptables qui vont nous permettre de clore l'ensemble des trucs. Et du coup, j'ai le service financier dessus et c'est une véritable catastrophe. Donc, vous y retournez. Et donc, vous y retournez non pas pour régler le problème du magicien parce qu'il s'est fait péter la gueule, c'est fini, mais pour ramener les justificatifs comptables qui vont permettre de clore ce putain de truc. Et vous vous retrouvez en train de faire une quête absolument effarante où vous allez chercher des justificatifs et des notes. Et vous retournez voir l'auberge où vous avez logé, et ils sont en train de la reconstruire, parce qu'évidemment, comme vous y avez dormi, ben, ça ne s'est pas bien passé, vous avez tout détruit, et vous demandez le remboursement, la feuille de remboursement, quoi, et on vous explique, ah mais c'était pas nous, c'était le précédent. Et là, vous avez votre première difficulté de quête. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, ils trouvent une solution.
Ils font des faux.
Non, mais c'est logique, si vous y réfléchissez. Il n'y a pas de raison que les elfes n'aiment pas les séries télé, le numérique et puis et les iPods. Vous voyez ce que je veux dire?
Et les CD. Et
avec la tronche qu'ont les elfes et le type d'oreilles qu'ils ont, imaginez un casque pour elfes, pour iPods, c'est un exercice absolument mais fascinant. Et le jour où j'ai trouvé la forme qui va bien, ben, je vais me régaler.
Karim, il y a un personnage que moi j'aime beaucoup dans cet univers, c'est Premier de la classe. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de ce garçon?
C'est un génie. Voilà.
Un mot, voilà.
C'est un mec, je sais pas si c'est très intéressant, le plus vaut mieux le découvrir dans le bouquin, mais Bah, c'est un jeune homme qui travaille chez les flics, là, mais qu'on a foutu dans un placard parce que dès qu'il voit du sang, il va vomir dans un baquet. Donc il n'est pas très bon pour les missions sur le terrain, mais par contre, c'est une sorte de génie, comme on en voit partout, qui résout pas grand-chose, mais et qui fait des phrases super longues avec des relatives et des subjonctifs. Et
dans
et
le roman, il se découvre quand même dans le roman. Il se découvre des aptitudes.
Mais c'est ça, parce qu'il est mis en situation. Voilà, il y a deux choses. Soit il réagit, soit il meurt.
Et les autres avec lui, finalement, c'est plus le sort des autres finalement qui le motive d'un seul coup.
Tu veux dire que les autres, c'est les faire valoir et que le vrai héros, c'est le génie boutonneux avec ses lunettes.
Ah bah,
voilà, c'est ça.
En l'occurrence, c'est un peu ça.
Ouais, c'est ça, peut-être. Ouais, ouais. Moi, je ne sais pas. De toute façon, il y a quatre persos.
Justement, ils reposent chacun eux aussi sur des archétypes, ces quatre personnages.
Surtout les deux. Il y a un flic et un détective. Donc voilà, un flic qui travaille, qui cherche les tueurs en série qu'il ne trouve pas, et un détective qui bosse et qui se fait chier parce qu'il résout des histoires de divorce et de mari et de femme infidèles. Donc ça, c'est quand même assez stéréotypé, on va dire.
Oh bah les deux autres aussi, parce qu'ils se complètent bien. Il y a la montagne de muscles qui réfléchit une fois tous les 36 du mois. Et,
ouais.
Et
c'est
puis
pas
le
gentil pour lui. Hein.
Chrome.
Tout ça parce qu'il
quand même.
Ouais.
Il a une scène de gloire dans un appartement où il arrive comme Rambo.
Voilà. À part qu'après, il s'en rappelle plus, donc ça ne lui sert à rien, mais bon. Non, mais voilà, bon, je sais pas.
Eux-mêmes, finalement, ces quatre-là, sans l'irruption de la partie fantasy urbaine, à eux quatre, il y a moyen de faire quasiment un polar parodique avec ces quatre-là.
Voilà. J'en ai déjà fait un, je vais pas en faire un autre avec les mêmes mecs. Ouais, bah, il y a de toute façon à partir
du moment. Ça se vend.
Ah voilà, c'est ça, voilà. Si j'en vends autant que Bernard Werber.
Si vous voulez lire d'autres trucs, il faut acheter le premier, quoi. Il y a pas de problème.
Vous en achetez 50 du chaque. Non, mais je pense que quand on a n'importe quel roman, quand vous avez des persos qui fonctionnent, qui vous plaisent, vous pouvez effectivement écrire plein d'autres histoires. On peut les mettre dans l'espace, on peut les.
Ce que je voulais dire, c'est qu'ils se suffisent à eux-mêmes et que le décalage qu'apporte l'irruption de la fantaisie urbaine, il vient bouleverser finalement un univers qui est déjà en place, mais qui.
Oui,
ce qui est le nôtre. Qui fonctionnerait presque indépendamment.
Oui, puisque c'est le nôtre. Donc, à part qu'il n'y a pas de portable dedans, parce que c'est un peu chiant d'avoir des portables. Mais Et donc, bon. Mais bon, je voudrais dire un truc à propos de l'humour dans la littérature, et plus spécialement dans la littérature SF et fantasy, c'est que ça marche plutôt bien. Je pense qu'il y a des auteurs qui ont vendu des centaines de milliers de livres, comme Pratchett. Je crois que t'en vends quand même pas mal aussi, le monsieur là-bas qui se cache au fond.
Ouais, ouais. Hein.
Donc ça marche bien, mais alors par contre, quand vous proposez un roman drôle à un éditeur, il vous regarde les grands yeux et puis il fait « Ah non, c'est de l'humour, ça va plaire à personne. » Et vous faites « Putain, mais merde. »
Ça dépend, si tu le proposes par exemple à l'éditeur de Pratchett, il t'accueille très bien, hein, parce que lui, c'est...
Non, c'est pas vrai. Peut-être l'éditeur anglais, mais... Non, mais je vous assure, et ça fait pas.
Ouais, il y a un paradoxe. Là. Puis, est-ce que ça serait le fait que parce que tu fais de l'humour, on te prend pas au sérieux?
Ah, c'est peut-être. Tu es sérieux là?
Oui.
Non, je pense que les éditeurs, enfin pas les éditeurs, les gens en général ont une vision de la littérature. C'est un truc sérieux quand même. Il faut pas même. Et quand ça commence à devenir drôle,
C'est segmentant.
Ouais, je sais pas. Enfin, tout le monde n'est pas aussi fermé que ça, mais quand même, il y a quand même un. C'est un peu comme quand t'arrives, tu vas voir des gens qui lisent de la littérature générale et qui te disent, j'ai écrit un livre de science-fiction. Voilà. Moi, j'ai écrit un livre un peu humoristique. Oh là là, ça va jamais se vendre.
Et
ce qui est vrai d'ailleurs.
Imaginez, vous êtes dans un wagon de train, de métro, ce que vous voulez. Vous avez 15-20 personnes avec un bouquin, et sur les 20 personnes, il y en a une qui se marre. Ben, les 15 autres le regardent en disant, mais. Ce qui lui prend, c'est quoi? Il y en a quelques-uns, quelquefois, qui vont regarder discrètement ce qu'il est en train de lire parce que ça a l'air bien, mais la plupart du temps, vous avez des gens un petit peu offensés en disant, mais faites ce que vous voulez, mais pas devant nous. Quoi.
C'est le vrai problème des liseuses maintenant. Pour arriver à savoir ce que lisent les gens, c'est horrible.
Ouais. Mais c'est vrai.
Ouais. Moi, j'ai quelqu'un, n'empêche, une fois, qui est venu me demander. J'étais en train de me marrer, mais vraiment, j'étais en train de me marrer, je sais plus ce que je lisais. Je lisais un Woodhouse, je crois, et j'étais mais mort de rire. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir en disant, ça a l'air bien, c'est quoi? Et je vais donner les références du bouquin. Mais c'est vrai que franchement, vous voyez ça dans un wagon, vous en avez 15 en train de lire, vous en avez un 16e qui se marre,
ben les 15 autres font le regarder d'un air un peu...
Le vilain petit canard.
Après, quand ils sortiront, ils vont l'acheter discrètement dans leur sex shop préféré. Hein. Mais ils mettront dans un sac de papier brun que personne ne voit qu'ils ont acheté ce genre de truc.
Pierre.
Mais c'est vrai que quand j'ai aussi voulu écrire et proposer aux éditeurs mes encyclopédies des fées, des lutins, etc. Donc je les ai présentées en 69, à peu près 69-70. Tous les éditeurs m'ont refusé, quoi. Ils ont dit, mais il est complètement fou, quoi, de vouloir traiter les fées, les lutins de façon sérieuse et à la fois humoristique, parce que je voulais pas justement faire comme les folkloristes, tu sais, qui disent voilà le Newton, on parle du Newton à tel endroit exactement et le Newton va devenir le Nution 5 km plus loin. Ça, je laissais ça effectivement à Le Couteux, enfin qui sont des grands, et à Van Genep et tous ces trucs là, mais je voulais, moi, les rendre ludiques, les rendre vivants. Mais j'ai donc j'ai présenté ça en 69. C'est sorti en 93, grâce à quelques bouquins, le Poulvirt, je sais plus, tu sais, les gnomes et les féeries de Brian Froud et Alan Lee, ou un éditeur Webeck. A dit qu'il faisait lui justement un peu de l'humour, un peu a dit. Mais lui, quand je lui ai présenté le bouquin, a cru que je présentais un bouquin d'humour. Et Sabatier, donc qui a été illustrateur, était le responsable de artistique de lui ou de Playboy ou de Penthouse, je ne sais plus quoi. Et il faisait partie des dessinateurs humoristiques. Lui a toujours cru aussi que je faisais vraiment un bouquin d'humour. Et j'en faisais. Il y avait mal donne. L'humour est toujours mal compris. Il y a des étiquettes, surtout en France, effectivement, comme ça, où la littérature, c'est avec un grand L. On ne peut pas rigoler. Il n'y a jamais de prix vraiment donné à un prix littéraire donné à un humoriste. Quoi.
Moi j'en ai eu un.
C'est pas vrai, tu déconnes.
Hein. Mais t'as couché.
Ah oui, il a couché, ouais.
Non, mais c'est un prix du public, j'ai eu le prix Merlin.
Ah bah oui, là c'est autre chose. Oui, voilà.
Bah d'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir fait de l'humour et avoir eu un prix Merlin, parce que je crois que Catherine Dufour, elle en a eu deux, oui. Il me semble, avec des romans particulièrement gratinés dans la gaudriole. Donc si, ça arrive.
Ça peut arriver.
Ouais. Mais moi, pour ce qui est de l'édition, moi j'ai le contre-exemple de ce que tu disais, c'est que j'ai rencontré Pierre Grimbert, mais je ne sais plus où d'ailleurs, sur un salon. Et lui, par contre, il est venu me voir et me dit « Hé, ça me fait vachement rire ce que tu fais. Est-ce que tu veux qu'on t'édite ?» Et moi, je n'avais pas encore écrit de roman, en plus.
Ah ouais.
Donc, je l'ai écrit parce qu'il m'avait dit qu'il voulait m'éditer. Parce que sinon, je passais mon temps à écrire de l'audio. Mais je voulais écrire du roman. Mais effectivement, moi, je ne pensais vraiment pas que quelqu'un... comme il disait, je ne pensais vraiment pas que quelqu'un allait me proposer de publier ça, parce que à chaque fois que j'avais vaguement parlé de ça à des gens, pareil, ils me disaient « Ah oui, mais non, c'est drôle !» Voilà. Et donc Pierre a fait la démarche inverse. Pierre, il m'a dit « Mais ouais, c'est drôle, il faudrait le publier !» Donc voilà, ce jour-là, ma vie s'est éclairée. Un peu comme là, avec le soleil.
Tu sais ce que disait Fred, le dessinateur? Il disait « L'humour est une chose trop sérieuse pour le confier à des rigolos. »
Ah. Et le passage à la télé, John, puisque Noël Buck est en cours d'adaptation.
Ouais, alors ça c'est effectivement, donc on a travaillé. Moi je travaille pas pour la télévision, parce que j'ai pas la télévision depuis 12 ans, parce que je trouve ça trop con. Alors tout à fait, comme il disait, il y a l'humour Patrick Sébastien que moi non, ça, voilà, non, juste déjà ça fait gros mot quand je dis Patrick Sébastien. Donc je pensais pas du tout faire un truc pour la télévision, parce que la plupart des gens, Alexandre Astier en a parlé dans une de ses interventions, la plupart des gens font des programmes crétins pour la télé parce qu'ils pensent que c'est comme ça. Or, on n'est pas obligé de faire des programmes crétins pour la télé. On peut faire des programmes intelligents. Le problème, c'est que les gens qui les vendent et qui les achètent à la télévision, eux, n'y croient pas. Et donc, nous, on se bat depuis 4 ans. Alors, je ne peux pas dire que je fais du contenu intelligent, mais par rapport à ce qui passe à la télévision, j'ai quand même l'impression de faire du contenu intelligent. Alors, ça se vérifie avec tous les gens avec qui je travaille, qui, eux, ont l'habitude de travailler pour la télévision. Donc, ils se forcent à faire des trucs crétins depuis des années ou des trucs pour la jeunesse, parce qu'il n'y a que, à peu près que ça qu'on arrive à vendre en France, mais des trucs pour du 8 ans, 10 ans. Donc là, tu vas travailler sur un humour qui n'est pas pour toi quand tu es un adulte, parce que c'est fait par des adultes. Tu travailles pour un humour qui est pour d'autres gens. Donc déjà, tu es un petit peu malhonnête parce que c'est pas ton humour à toi. Ça te fait pas marrer ce que tu fais, en fait.
Faire travailler des enfants de 8 ans pour écrire des scénarios pour les enfants de 8 ans.
Mais peut-être, je sais pas. Mais le fait est que quand nous, on regarde ces programmes, en général, on se dit, mais c'est pourri. C'est pourri. Voilà. Alors nous, on fait un programme qui nous fait marrer, nous. Et ça, on a un mal fou à le vendre. Et pourtant, tous les gens à qui on le propose, on le montre, etc., c'est des adultes. Ça les fait marrer. Et il y en a beaucoup qui disent « Oh là là, mais quand même, c'est bizarre. Oui, mais vous avez rigolé. Oui, mais ça va être difficile à vendre. » Voilà. Alors on est dans cette espèce de on tourne en rond, en fait, mais vraiment comme des gros débiles, quoi, parce que ça fait 3 ans. Alors, on a Canal+, qui, eux, ils ont adhéré dès le premier coup. Heureusement, on a ce diffuseur-là qui nous a dit « Ouais, nous, ça nous fait marrer, on prend. » Mais il nous manque encore des investisseurs. Depuis 2 ans, mon producteur, il va proposer des trucs. Il montre notre épisode. Les gens à qui il monte se marrent. Hein, c'est eux qui font le programme de la télévision. Hein, tu vois, c'est eux qui peuvent acheter les programmes. Et ils n'achètent pas. Et là, tu dis, mais pourquoi? Voilà. Et donc, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on fait. Normalement. Parce que normalement, on fait des trucs débiles. Enfin, quand je dis débile, c'est de l'autre côté du péjoratif. Parce que, voilà. Donc, ouais, c'est très particulier comme idée, et ça renforce dans la pensée que on fait des programmes crétins exprès pour la télévision, parce que tous les gens qui travaillent dans la télévision sont pas des crétins, mais ils le font quand même.
On arrive au terme de cette rencontre. Jean-Claude, tu veux le mot de la fin?
Non,
c'est bon. Bon, très bien. Je me méfie. On arrive au terme de cette table ronde autour de l'humour dans la fantaisie, et même vous l'avez vu un petit peu plus largement. On espère en tout cas que vous aurez adhéré à ces discours, que vous aurez, j'ai entendu quelques éclats de rire, donc on est sur la bonne voie, vous aurez envie de découvrir ou de redécouvrir l'univers de nos invités, d'aller discuter avec eux, poursuivre les conversations sous la bulle du livre, et puis de découvrir leur travail et leur livre. Merci beaucoup.
Merci d'avoir survécu.
Merci.